Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouvel Au fil des pages qui nous donne le grand plaisir de retrouver aussi l'un des plus brillants économistes contemporains, qui est aussi un grand spécialiste du secteur bancaire, le professeur Olivier Pastret, qui vient de faire paraître en duo avec un de ses éminents collègues, Patrick Artus, Sortie de crise chez Perrin, un ouvrage de 330 pages pour 18 euros. Monsieur le professeur, bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous accueillir sur l'antenne.
Et dont le sous-titre est « Ce qu'on ne nous dit pas et ce qui nous attend ».
Absolument. Et c'est justement ce sous-titre est tout à fait évocateur de votre thèse, puisque vous soulignez que la crise n'est pas finie et que sa gravité dépendra principalement de la montée des tensions protectionnistes et surtout de la manière dont les États vont être capables de les gérer, ces tensions. Alors, vous suggérez d'ailleurs des pistes originales, certaines non conventionnelles, comme par exemple la coopération sociale à l'échelon mondial, pour une sortie durable de cette situation de grande fragilité de l'économie mondiale. Alors, avant d'y revenir, je voudrais rappeler quelques éléments de vos biographies réciproques. Patrick Artus est professeur à la Sorbonne et à Polytechnique. Il est directeur des études économiques de CDCX6 et membre du Cercle des économistes. Et son dernier ouvrage, Les incendiaires, a reçu le prix Turgot 2007 du meilleur livre d'économie financière. Quant à vous, monsieur le professeur Olivier Pastret, vous êtes professeur d'économie à l'Université de Paris 8. Vous êtes conseiller scientifique de la revue d'économie financière et membre du conseil scientifique de l'autorité des marchés financiers. Vous êtes producteur de l'émission L'économie en question sur France Culture et membre du Cercle des économistes. Et vous venez, vous aussi, de recevoir le prix Turgot du meilleur livre d'économie financière pour l'ouvrage que vous avez fait paraître chez Perrin, le roman vrai de la crise financière, avec Jean-Marc Silvestre, donc le journaliste bien connu de TF1 et de LCI. Alors, vous êtes donc tous les deux les derniers lauréats des deux dernières éditions du prix Turgot, ce qui montre que le grand jury avait bien compris que vous étiez appelés à faire un certain nombre de choses ensemble, notamment au niveau de la complémentarité des idées, ce qui donne, je le dis d'emblée, dans cet dernier ouvrage, Sortie de crise, un résultat particulièrement brillant et qui d'ailleurs est déjà suivi d'un accueil assez remarquable par le grand public et en librairie. Donc, nous en venons à votre ouvrage plus directement pour aborder la première question qui est vous dites qu'on n'est pas sorti de crise et que même elle bat son plein. Alors, vous y trouvez cinq causes en page 328 à cette crise, celles qui vous paraissent les plus importantes ou les plus flagrantes, c'est la crise monétaire d'abord peut-être.
Non, par définition, toutes sont importantes. Il se trouve que Patrick Artus, de son côté, et moi du mien, on avait réfléchi et on avait travaillé sur la crise principalement financière. Et on s'est rejoint dans ce livre pour essayer de démontrer qu'au-delà de la crise financière, il y avait quelque chose de bien plus grave, c'était la crise de l'économie réelle. Si c'était qu'une crise financière, à la limite, on pourrait dire, il faut renforcer les fonds propres des banques, il faut quelques régulations pour les agences de notation ou pour les normes comptables et prudentielles, et puis on va sortir de l'ornière. Malheureusement, la crise est une crise de l'économie réelle, dont peut-être le symbole le plus marquant est la désindustrialisation des pays du Nord. En gros, les pays du Nord ont fait le choix soit du haut de gamme, c'est-à-dire, pour prendre le cas de la France, le luxe, et la haute technologie, soit du bas de gamme, c'est-à-dire les services à la personne. Alors, bravo pour ces deux initiatives, simplement, ça laisse pendant tout le milieu, c'est-à-dire l'industrie au bon vieux sens du terme. Et là, tous les pays du Nord, sauf l'Allemagne peut-être, et à un moindre degré le Japon, ont abandonné leur industrie. et l'ont abandonné aux pays émergents. Grâce à quoi les pays émergents ont émergé. Mais malheureusement, quand on a désindustrialisé, réindustrialisé, c'est un vrai problème. Et peut-être, enfin, pas peut-être, je pense que l'originalité de ce livre, parmi les nombreux livres qui sont sortis sur la crise, c'est de montrer que cette crise est aussi une crise de l'économie réelle.
Oui, donc une crise systémique par ailleurs, c'est-à-dire que du système.
Oui, de l'ensemble des dispositions, mais pas simplement dans le champ de l'économie financière et monétaire. Encore une fois, si ce n'était que ça, entre guillemets, ouais. On arriverait à s'en sortir. Quand on a désindustrialisé des régions entières, des pays entiers, pour réindustrialiser, il y a, comme on dit, de manière triviale, du boulot.
Et il y a du boulot, et c'est précisément ce pan de l'industrie qui donnait du boulot, justement, et que peut-être il y a un lien avec le chômage.
Oui, bien sûr. La mécanique, là, moi, je suis très frappé, vous l'avez évoqué dans votre introduction. Aujourd'hui, la crise est finie. Alors, on voit ça à la une des journaux. On voit ça dans la réalité concrète, puisque je rappelle que 23 des premières banques américaines ont octroyé pour l'année 2009 140 milliards de dollars de primes à leurs traders. On est dans le système, pardon de l'anglicisme, mais c'est comme ça que ça se dit dans les salles des marchés, business as usual. On fait comme si de rien n'était. On recommence à faire les mêmes. Vous m'excuserez de ne pas dire le mot que je pense.
Oui, bêtise.
Disons bêtise, c'est un faible mot. Ça, c'est très inquiétant. Parce que si on considère que la crise est finie, on ne fera pas les réformes qui sont indispensables. Or, les différentes réformes qui ont été mises en œuvre aujourd'hui, je dirais que au fil des G20, les principales réformes ont concerné les paradis fiscaux, les bonus des traders et le rôle du FMI. C'est très bien, mais c'est totalement périphérique, epsilonesque, à l'échelle des problèmes, y compris dans la sphère financière.
Oui, bien évidemment, en termes de symbole, ça fait hurler l'opinion, qui considère toujours que ce sont les banques qui ont totalement amené le monde, et en particulier en France, dans la crise.
Non, mais il fallait faire ces réformes. Moi, j'ai été très impressionné positivement, et encore une fois, quand je dis « je », c'est aussi Patrick Artus qu'on a de ce point de vue-là, les mêmes points de vue. On a été très impressionné positivement par le G20 de Londres au mois d'avril, parce qu'on a vraiment, pour la première fois, traité le problème du bonus des traders et des paradis fiscaux qui n'avaient pas été traités pendant 20 ans. Le problème, c'est qu'on s'est arrêté là. Et à Pittsburgh, il n'y a rien de nouveau.
Oui, c'est ça. Et bien évidemment, la France est sur ce point très en avance, puisqu'elle a elle-même pris des dispositions, avec d'ailleurs la profession, hein, c'est qu'il faut saluer, en matière d'encadrement des bonus. Pour l'instant, on ne voit pas très bien, en tout cas récemment, le dernier sommet n'a pas trop montré que c'était une initiative qui avait vocation à être étendue rapidement au niveau mondial. Enfin, en tout cas, c'est la lecture que j'en fais. Je ne sais pas si c'est vous partagez.
Je partage complètement. Il y a deux problèmes disjoints. Il y a un, quelles réformes on fait ? On en a fait trois, je les ai cités, paradis fiscaux, bonus et FMI. Il en reste probablement 10. Agences de notation, supervision bancaire unifiée, normes comptables, normes prudentielles. Il y a comme ça tout un marché de gré à gré, dérivés de crédit, hedge funds.
Tous ces points sont à
traiter. Donc, premier point, on n'a traité qu'une partie du problème. Deuxième point, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a aujourd'hui, de même qu'il y a une guerre des monnaies, qu'il y a une guerre commerciale, qu'il y a une guerre des budgets, on y reviendra peut-être dans la discussion, il y a aussi une guerre des réglementations bancaires. Les Américains ne veulent pas réglementer. Barack Obama, qui, dans le domaine de la santé, est en train de faire un pas en avant considérable, dans le domaine financier, d'une prudence qui laisse à penser qu'il est quand même très encouragé, on va dire ça comme ça.
Il est tenu, carrément.
Je dirais encouragé, parce que j'ai une pudeur légendaire. Encouragé par Wall Street, pour simplifier. Et on ne peut pas, si la France fait un pas en avant, c'est le dessin de Sempé, tous les petits enfants autour de leur maîtresse qui courent vers la plage. Et puis au dernier moment, tous les enfants s'arrêtent et la pauvre maîtresse va toute seule à l'eau. si la France est la seule à réglementer et que les États-Unis ou l'Angleterre ne le font pas, à ce moment-là, on sera pénalisé en termes de concurrence.
Oui, il y aura une distorsion de concurrence extrêmement.
C'est un vrai problème.
C'est un vrai problème. Je reviens un tout petit peu, parce que je voulais quand même que vous en disiez un mot, sur la situation de chômage qui est notamment dans les pays du Nord en train de se développer et qui risque, dans le contexte de crise, d'avoir encore des pesanteurs supplémentaires. Alors, Patrick Artus, je pense, ou je ne sais pas si c'est vous ou Patrick Artus, enfin, tous les deux...
À quatre mains.
D'accord, à quatre mains. Donc, vous dites qu'en fait, les politiques d'encouragement donc, pour traiter cette situation de chômage ne sont plus adaptées dans le contexte de crise, puisqu'avant, c'était donc une politique, on va dire, de l'offre, et qu'aujourd'hui, c'est une politique de... Enfin, du moins, c'est l'inverse. Hein, c'est une politique de la demande qui a été faite, et aujourd'hui, c'est une politique de l'offre qu'il faudrait faire, de travail.
Oui, je n'ai pas répondu tout à l'heure à votre question parce que je voulais faire un détour par la sphère financière. Mais il est clair qu'en matière sociale, on va au-devant d'ennuis gravissimes.
C'est
là où ce livre s'efforce de dire, il n'y a pas beaucoup de livres sur le sujet, la crise n'est pas finie et on ne traite pas les bons sujets. Alors ça ne veut pas dire que les sujets qui sont traités ne sont pas bons, mais ce n'est pas les seuls. En matière sociale, il faut s'habituer à un taux de chômage de 10%. Pour de nombreuses années dans l'ensemble des pays développés. Il faut s'habituer à l'idée que les délocalisations, non seulement vont se poursuivre, mais vont s'accélérer. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? C'est très difficile parce que si vous encouragez des industries déclinantes, vous allez à un coût budgétaire de plus en plus lourd, sauver des emplois qui n'ont pas d'avenir d'une manière ou d'une autre. Bon, retour à la sidérurgie des années 70. Et donc il faut essayer de favoriser les parcours professionnels des salariés, non pas les emplois, mais les parcours professionnels salariés, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites dans ce domaine-là. Et en même temps, il faut d'une manière ou d'une autre améliorer les salaires sans faire une relance par la demande. Alors vous allez me dire comment on fait ? Je ne sais pas. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a simplement la prise en compte du fait qu'une relance par la demande bestiale, comme certains partis de gauche dans les pays européens le proposent, va créer de l'importation et ça ne va faire qu'aggraver la situation. Donc une relance par la demande en embauchant des fonctionnaires, ouais. c'est pas la bonne solution.
Ou en créant des ateliers municipaux comme on avait fait.
C'est pas la bonne solution. Et en même temps, si on n'augmente pas la masse salariale, on ne créera pas de demande, on ne créera pas de consommation. Donc là, il y a une équation qui est soluble par des mesures techniques très ciblées pour essayer de faire en sorte que le problème social soit géré.
Mais je ne résiste pas au plaisir de lire un passage de votre ouvrage qui, en fait, résume parfaitement ce que vous êtes en train de dire. « Les réformes sociales que nous proposons ici sont plus contre-intuitives que coûteuses. Elles sont au nombre de quatre. Inscrire la variable sociale en y intégrant le problème de l'immigration à l'agenda du prochain G20. 2. Donner dans les pays du Nord la priorité à la protection des salariés sur la protection de l'emploi. 3. Basculer d'une politique de promotion de l'offre de travail à une politique de promotion de la demande de travail. 4. Créer à l'échelle internationale un fonds social d'ajustement bénéficiant en priorité aux pays du Sud et permettant de limiter les effets de la concurrence sociale. Et vous terminez, parce qu'il me paraît majeur, ces mesures à contre-courant de nombreuses idées reçues ne doivent leur originalité qu'à l'originalité de la crise elle-même. Il est temps de faire preuve d'imagination, notamment en matière sociale. C'est bien maintenant, messieurs, les gouvernants, à vous de jouer, sous-entendu.
Absolument.
Mais je crois que c'est un parfait résumé. Et c'est très bien écrit en plus. Bravo.
Merci.
D'accord. Alors, on en vient à d'autres points, puisque vous m'avez tendu la perche tout à l'heure, qui est donc le problème budgétaire et notamment le lien avec les plans de relance. Alors, j'ai entendu Patrick Artus, mais je suppose que vous partagez tout à fait, souligner ce qu'il y avait de paradoxal à demander aux pays qui ont le moins d'épargne de faire des efforts les plus forts, donc à savoir les États-Unis, etc. Alors qu'en sens inverse, ceux qui ont le plus d'épargne, l'Allemagne, le Japon, la Chine, sont... Alors, comment trouver une forme de nouvelle solidarité, en quelque sorte, budgétaire ?
Alors, commençons par le diagnostic. Oui. On a des pays qui ont un faible taux d'épargne, voire comme les États-Unis, qui, pendant certaines périodes, ont désépargné, c'est-à-dire qu'ils étaient plus endettés qu'ils ne consommaient. Et puis, il y a des pays qui ont beaucoup d'épargne. Juste un chiffre qui est aveuglant pour l'analyse des situations actuelles, le taux d'épargne en Chine est de 60%, il est de 12% si on prend l'ensemble de l'épargne aux États-Unis. Donc c'est quand même une différence de 1 à 5, ce n'est pas complètement négligeable. Bon. À partir de là, il faut régler ces disparités. Ce qui veut dire qu'il faut que les Américains, pour simplifier, épargnent et que les Chinois, pour simplifier, consomment. Comment on fait ? C'est ça la difficulté. D'abord, il faut prendre conscience de cette situation et se dire que c'est le problème numéro un. Parce que si on crée des telles différences en termes de comportement financier, on aura des déséquilibres financiers à G continu et donc des bulles, donc des cracks et donc des crises. Ce qu'il faut faire, c'est arriver à coopérer. Alors, c'est presque un mot cochon. Dire qu'on va ensemble, le Nord et le Sud, étudier la sortie de crise. Le risque, c'est le protectionnisme, c'est que chacun se replie sur soi. La solution, c'est la coopération, c'est-à-dire il faut que les pays du Nord prennent conscience de l'importance des pays du Sud, des pays émergents, dans la relance de la croissance, et acceptent avec eux de faire un deal qui est très simple, enfin très simple à élaborer, beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. On vous transfère de la technologie, au lieu de la retenir, au lieu de la cacher, et en échange, vous augmentez vos salaires dans vos pays, pour qu'il n'y ait plus un tel différentiel de salaire, qu'on soit totalement incité, poussé à délocaliser chez vous. Alors ça, c'est encore une fois plus facile à dire qu'à faire. Mais si on ne met pas ça au cœur des discussions, on n'y arrivera pas. Encore une fois, le G20 de Pittsburgh, au mois de septembre, était extraordinairement décevant, puisqu'on parlait ni de monnaie, ni de budget, ni d'industrie, ni de commerce, qui sont les quatre sujets fondamentaux.
Alors vous pensez que le G3, ce que vous appelez le G3, c'est-à-dire donc le G2, Chine, Amérique plus Europe, peut impulser ce genre d'initiative heureuse et de prise de conscience?
Mais nous, les intellectuels, on est là pour agiter les idées. Si on est là pour désigner une victime expiatoire, un coupable idéal, ou défendre une politique économique qui est parfois absurde, on n'est pas dans notre rôle. Nous, notre rôle, c'est de dire, attendez, vous n'avez peut-être pas pensé à ça. Non. Et dans ce domaine-là, le G3, c'est dire, quand il y a une période de crise, on peut pas, il faut à la fois coopérer, on ne peut pas coopérer à 6500. Je caricature évidemment. Même 27 au sein de l'euro, on se rend compte que c'est compliqué. Alors, a fortiori, 153 au sein de l'OMC, ça devient impossible. Donc, faisons un G3. G3, ça veut dire la Chine, l'Europe et les États-Unis. Et à trois, essayons de voir comment coopérer. N'oublions pas que s'il n'y a pas de G3, il risque d'y avoir un G2, c'est-à-dire Chine-Amérique.
La Chine-Amérique.
Ou la chimérique.
La chimérique, oui, c'est
je préfère
ça.
Cette expression qui est plus poétique. La chimérique, c'est ce qui nous pend au nez. C'est-à-dire une entente, Barack Obama va en Chine, alors il fait les gros yeux sur un certain nombre de problèmes fondamentaux comme les droits de l'homme, mais en même temps, il est en train de négocier un certain nombre d'éléments de coopération. Il faut que l'Europe soit partie prenante, c'est pour ça qu'il vaut mieux un G3 qu'un G2.
D'accord. Alors, on a vu les risques au plan du chômage, on a vu l'incohérence des plans de relance. Alors, ce que vous pointez véritablement du doigt, c'est le risque du retour à une forme de protectionnisme, mais en fait, qui serait qu'un retour de l'histoire, puisque la tentation naturelle dans les périodes de crise, c'est de venir... Alors, vous faites dans votre introduction une espèce de prospective et vous nous situez en 2025, qui donne évidemment quelques frissons. Mais lorsqu'on le regarde de très près, on espère que c'est une conjuration pour exorciser un certain nombre de scénarios. Cela étant, si ce que vous décrivez, qui serait la suite logique d'un protectionnisme, se passait, ce serait la plus grande catastrophe mondiale qu'on ait jamais connue. Alors comment faire pour éviter ce risque, en plus de ce que vous venez de décrire, à savoir la stratégie de coopération, c'est la pédagogie à nouveau.
Oui, vous reconnaîtrez que la fin de cette introduction se termine bien.
Oui.
En 2025, tout va bien. Encore une fois, il est, et je pèse mes mots, criminel intellectuellement de dire que la crise est finie. Or, c'est quand même ce qui se dit aujourd'hui. La crise n'est absolument pas finie, elle n'a aucune raison de l'être si on ne prend pas des mesures radicales, non seulement dans le champ financier, mais aussi dans le champ de l'économie réelle. Et dans ce domaine-là, il y a un risque majeur, et historiquement c'est prouvé, c'est le protectionnisme. À partir du moment où on commence à se replier sur soi, c'est d'abord l'arrêt du commerce, donc l'arrêt de la création de richesses, mais c'est bien plus que ça, c'est évidemment le populisme, et en matière politique, je ne suis pas un spécialiste de sciences politiques, mais en général, ça se termine très mal, et souvent, ça s'est terminé par des guerres. Alors, ce n'est pas le risque majeur aujourd'hui, mais quand on regarde, le risque protectionniste est permanent. Aujourd'hui, le protectionnisme s'est diversifié. Quand le dollar baisse, c'est parce que l'économie américaine est moins forte qu'elle ne l'était. Mais c'est aussi parce que les Américains se servent de l'arme monétaire pour améliorer leur compétitivité. Il y a un chiffre qui balaye toutes les réflexions. 10% de baisse du dollar, c'est 1 milliard de profit en moins pour EADS, le fabricant d'Airbus. Ça laisse à réfléchir. Et donc, dans ce domaine-là, le risque est majeur. La seule solution, c'est la coopération.
D'accord. Alors, et sur le plan monétaire, vous voyez des avancées pouvoir se dessiner, notamment par rapport à la monnaie chinoise qui continue d'être en fait le bras armé de la politique commerciale.
Pour le moment, les Chinois ont décidé, moi je dis toujours, politique économique dans les pays développés, c'est en gros politique anti-économique en gros. En Chine, c'est le contraire. La politique prime l'économie. Bon. Aujourd'hui, les Chinois ont décidé de rester proche du dollar. Et donc, ils achètent des dollars, AG continue, et l'Amérique peut continuer à faire des déficits, faire des relances budgétaires. Le jour où ils arrêtent, là, ça va être extraordinairement compliqué, parce que le dollar risque de s'effondrer. Donc, dans ce domaine-là, il faut espérer que tout le monde garde raison, c'est-à-dire se dise, économiquement, nous avons intérêt à coopérer, et donc, politiquement, on n'a pas intérêt à...
Oui, mais la France et l'Europe, là, ce sont des victimes en perspective. Est-ce qu'elles ont des possibilités? Parce que le grand perdant du scénario que vous décrivez, ça serait d'abord l'Europe, en quelque sorte.
Oui, mais moi, je ne crois pas à la méthode Coué en économie, qui consiste à dire tout va bien, la vie est belle. Je ne crois pas non plus à la fatalité. L'avenir de l'Europe, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas 36. C'est investir sur l'intelligence, pas l'intelligence au sens de QI, mais oui. Sur la formation, y compris la formation permanente,
l'innovation,
la recherche et développement, l'université. Bref, se repositionner sur des segments industriels qu'on a abandonnés. Alors ça, il vaut mieux le faire les Européens ensemble que chacun des Européens pris isolément. Si les Allemands veulent continuer avec leur modèle d'exportation à tout prix, si on veut nous relancer la demande, on ne va pas y arriver. Il faut que l'Europe se ressaisisse, et encore une fois, je ne crois pas qu'il y ait de fatalité, et qu'elle mise, un, elle mise sur les industries d'avenir, deux, elle coopère avec les deux grandes forces que sont d'un côté les pays émergents, d'un côté les États-Unis.
Alors, vous avant de conclure, on va rappeler les principales mesures, je crois qu'il y en a une dizaine hein, que vous...
Une vingtaine. G20. Il y a un G20, donc on a fait notre G20.
C'est ça. On va y venir, mais je ne résiste pas au plaisir de vous lire à nouveau pour montrer que vous avez tous les deux des talents de plume dans votre introduction. En ce froid matin de novembre 2025, les chefs d'État et de gouvernement du nouveau G22, on verra donc, hein, les membres du G20 auxquels se sont ajoutés en 2017 l'Égypte et l'Ukraine, peuvent s'estimer heureux. La croissance mondiale est enfin de retour.
Mais oui, sur le fond, je suis optimiste parce que quelles sont les voies de la coopération? Il y a deux solutions. Soit on comprend que c'est la meilleure solution, et je n'exclus pas que ce soit ce qui se met en place, soit on a peur. Parce que les délocalisations se poursuivent, quand on regarde l'économie réelle, encore une fois, le chômage continue à augmenter. Et donc, je pense que les gouvernements vont prendre conscience, dans le pire des cas, vont prendre conscience à coup de bâton de la nécessité de coopérer.
Juste un mot sur l'actualité quand même nationale. On ne peut pas vous laisser partir sans vous poser la grande question du moment. Ce grand emprunt, vous en voulez combien? Vous 100 milliards, 35 ou aucun?
Oh, mais je trouve que c'est une bonne idée.
C'est une bonne idée.
Je dirais 30 ou 100, je dirais peu importe.
Dès lors que ça soit pertinent.
Tout dépend de ce qu'on va en faire. Si on en fait de la création de richesses, de l'aide à l'innovation, de l'aide à la performance, de l'aide à la compétitivité, à la limite, moi, en ce qui me concerne, je serais prêt à assumer, enfin, pour une fois, qu'on assumerait une dette intelligente, alors qu'on a assumé des dettes idiotes, je serais prêt à en prendre pour 100 milliards.
D'accord, donc vous seriez plutôt fourchette haute. Bon,
bien
très
sûr.
Bien, nous avons noté. Alors, on en vient quand même, on va pas les passer les 20 en revue, parce qu'il faut laisser un peu d'envie et d'appétit à nos auditeurs, mais bon. Un point là, sur lequel vous insistez tous les deux, c'est donc de lutter contre le caractère pro-cyclique de la finance. Alors, ça veut dire quoi en quelques mots
C'est très simple. On a aujourd'hui des normes, pas énormes. mais ces normes sont énormes. Elles sont pro-cycliques au sens où quand ça va bien, elles améliorent la situation et quand ça va mal, elles détériorent. Alors, il faudrait rentrer dans les détails techniques, prudentielles, les normes comptables, le rôle des agences de notation, tout ça fait d'en rajouter une couche quand les ennuis commencent. Et là, il faut faire des réformes brutales. Il faut suspendre ces normes. Point. Il ne faut pas tourner autour du pot comme on le fait de G20 en G20 en hésitant à prendre des mesures radicales.
D'accord. Et une nouvelle monnaie mondiale, vous n'y croyez pas trop ?
Là, ça fait partie des débats qu'on a quand on est deux auteurs. Moi, j'y croyais beaucoup plus l'idée d'un retour au DTS de Keynes.
Oui. Panier de monnaie, comme on dit.
J'y crois, mais je ne crois pas que ça soit une solution qu'on puisse mettre en œuvre à court terme de manière significative. Je rappelle qu'aujourd'hui, les DTS, ça représente 4% des monnaies. Donc, le temps qu'on passe à 20%, on aura déjà des centaines de millions de chômeurs. Donc, on peut pas. Il faut trouver un équilibre dans le système actuel, quitte à développer les DTS progressivement, en obligeant, par exemple, ce qui est un truc très simple à faire, encore faut-il le faire, toutes les grandes organisations à émettre des emprunts en DTS.
Donc, on peut peser sur dans le sens de cette.
Il faut le faire. D'accord. C'est pas une solution à court terme.
C'est pas la solution à court terme. Donc, impulser une relance verte à l'échelon mondial, ça, c'est pour trouver des nouvelles sources de croissance, hein, ça, on le sait. Alors, ce qui me paraît, on terminera peut-être là-dessus, ce qui me paraît important véritablement dans votre ouvrage, c'est que vous insistez véritablement sur cette coopération. Il n'y a pas d'autre solution que la coopération, vous l'avez dit tout à l'heure, et en particulier une coopération sur le plan social. Et vous allez jusqu'à imaginer de créer à l'échelle internationale un fonds social d'ajustement bénéficiant en priorité aux pays du Sud et permettant de limiter les effets de la concurrence sociale. Et ça,
oui.
Ça me paraît être très fondamental.
Mais ça c'est avec Patrick Artus, on a eu beaucoup de discussions sur le sujet. Je pense qu'il y a un vrai New Deal, comme celui de Roosevelt, à voir à l'échelle mondiale, en disant aux pays du Sud, vous créez aujourd'hui 80% de la valeur. Vous êtes les seuls qui peuvent nous aider à sortir de la crise. On vous a méprisé pendant 10 ans. Bon, changeons les règles du jeu. Un, on vous transfère de la technologie d'une manière ou d'une autre, sans être naïf. Il ne faut pas transférer toute la technologie à n'importe quelle condition. Mais en échange, vous mettez en œuvre une politique sociale dans vos pays qui crée de la consommation, et donc qui consommeront nos produits, qui crée de la valeur ajoutée. Il faut donc faire de la formation, faire un financement du système de santé qui permette de remettre à niveau vos pays et qu'il n'y ait pas un différentiel de salaire qui fasse que toutes nos entreprises n'aient qu'une chose en tête, y compris les PME, c'est de délocaliser.
Voilà. Alors donc, vous donnez un dernier avertissement dans votre conclusion. C'est en changeant radicalement les règles du jeu en matière financière, mais aussi fiscale, industrielle et sociale, suivant donc la voie tracée alors par Roosevelt, c'est-à-dire vous proposez un New Deal de l'après-crise mondiale.
Roosevelt a dit une chose très simple. « What we must fear is fear ». Ce que nous devons craindre, c'est le manque de confiance et la peur. C'est ça la situation actuelle. Si les consommateurs, si les entreprises, si les pays ont peur, ils ne consommeront pas, ils n'investiront pas et ils ne lanceront pas de nouveaux projets. Et donc, il faut lutter contre cette crainte qui existe aujourd'hui. Il suffit de sortir dans la rue pour s'en rendre compte. Et pour ça, d'une manière ou d'une autre, il faut coopérer.
Voilà, donc Olivier Pastré, pour qui le dernier message est « n'ayez pas peur ».
Absolument, comme un autre l'a dit.
Je ne dirais pas, vous êtes le pape de l'économie quand même. D'accord.
Merci. Pas encore, si je l'étais, nous serions deux avec Patrick Artus.
D'accord. Merci beaucoup Olivier, à très bientôt sur notre
antenne. Merci à vous.